centrale, à plus de, on va dire, à plus de 1000 mètres d'altitude globalement, sur le plateau des Arangolas, sur la Margerie, sur l'Aubrac, derrière les monts du Cantal. Vous connaissez la région, je ne vais pas m'y appesantir. Ça ne serait pas le lieu de développer ça. Et puis finalement, à moins de quelques dizaines de kilomètres seulement d'ici, on dévale le Talus Seine-Nord et on arrive dans les plaines méditerranéennes. Là aussi, pas besoin de vous expliquer ce que sont les plaines de la vallée du Rhône, de la basse vallée du Rhône, du Languedoc et garrigue languedocienne. Et au final, sur la région qui nous intéresse, d'ici jusqu'au pied du Talus Seine-Nord, on est bien sur une région de confins géographiques qui met en contact finalement à une distance relativement réduite de quelques dizaines de kilomètres, 10, 20, 30 kilomètres selon les secteurs déjà les plus, qui met donc en contact des terres de haute altitude, des terres de montagne et des terres de plaine, avec donc des capacités, des climats différents, des sols différents et donc des capacités productives complètement différentes. Une région produit, l'autre ne produit pas, et réciproquement. Donc, on voit qu'on est à la conjonction, sur ici, à la conjonction donc de deux espaces qui sont proches et très différents. Et je crois que ça va vraiment structurer, contribuer à structurer le réseau routier quand vous allez le voir. Autre point que je voudrais aborder un peu en introduction, en préalable, en préambule, c'est la question des voies romaines, parce que forcément, cette question, elle sera posée. Je pense que quelqu'un la posera à la fin de la séance lors des discussions, parce que ça arrive presque toujours. Donc j'ai pris le parti d'ajouter un petit préambule sur la matière. Je ne sais pas, le micro fait du préparatif, si vous entendez bien. Oui, d'accord. J'entends des fragments, des vibrations, voilà. Donc, question des voies romaines, je voudrais l'évacuer d'abord avec un petit préalable sur ce qu'on peut appeler voies romaines ou pas, parce que ça va se reposer. Vous allez sans doute m'interroger sur la traversée de la région par ces arbres, puisque ça arrive presque à chaque fois que j'évoque les questions routières dans la région. Donc, pour s'entendre clairement sur ce qu'on va appeler voie romaine ou route antique, je fais une différence toute seule. Il y a lieu de faire une différence très nette entre ce qu'on va appeler les voies romaines au sens strict du terme et les routes antiques. La voie romaine, c'est d'abord une question de statut. Au sens strict du terme, c'est la route qui appartient au cursus publicus. C'est la route vraiment publique, entretenue après public par du personnel public, équipée, dotée de bornes linéaires, équipée de tout un appareil d'accueil de voyageurs, de spatiaux, de SMS, etc. À côté de ça, on a ce que je dirais tout simplement des routes antiques, des routes pour rester de manière, sur un appellatif de manière très générale et antique. Là aussi, pour ne pas renvoyer spécifiquement à la période romaine au sens du terme. Et donc ce sont des réalités qui sont différentes entre ces deux types de routes. Et donc, quand je vais parler du réseau routier antique, je veux bien parler de l'ensemble des itinéraires antiques, qu'ils soient à proprement parler des voies romaines relevant du plus ou pas. Et donc ce sont quand même des réalités qui sont différentes. D'un côté, on a des routes construites par Rome, et de l'autre côté, on a des routes, de fait, des routes locales, qui sont initiées par les circulations, sans doute même avant la romanisation. Donc, je voulais déjà poser cette différence parce que elle induit un certain nombre d'éléments par la suite dans le cours. Et avant d'entrer vraiment sur le Moyen-Âge, je voudrais vous présenter un peu les caractéristiques du réseau routier antique, donc entre Vivarais et Velay, parce que cette idée que le réseau routier médiéval serait tributaire du réseau routier antique est une idée qui est très ancrée dans les esprits. Et on s'aperçoit que c'est pas nécessairement le cas, que les routes se sont succédées, les itinéraires se sont succédés sur les mêmes tracés, pas forcément pour partir du même point, pas forcément pour arriver au même endroit, on donnerait des exemples, mais il ne faut pas chercher nécessairement une succession du réseau routier antique au réseau routier médiéval. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas automatiquement ni survivance, ni disparition du réseau routier antique dans le réseau routier médiéval. C'est plus complexe que ça. Donc, pour revenir sur le réseau routier antique, c'est que globalement, on a un réseau qui, à travers l'Ardèche, est un réseau qui est peu dense, avec quelques itinéraires seulement, qui sont parfois pour un certain nombre relativement hypothétiques. On a un réseau qui est ascensique. À l'échelle de la région, il ne converge vers aucun centre, mais il converge vers un certain nombre de centres. Un certain nombre d'itinéraires convergent vers un certain nombre de centres qui sont extérieurs à la région. Donc, on n'a pas de polarisation de ce réseau dans la région. C'est un réseau qui est aussi fortement déséquilibré entre montagne et plaine, un réseau qui est beaucoup plus dense dans la plaine qu'en montagne. Donc, au-delà de ce déséquilibre, eh bien, c'est quand même un réseau qui est dominé par trois axes publics, dont un axe qui remonte jusqu'en Velay et qui passe donc la vallée du Rhône au niveau du Teil, qui passe par la cité d'Alma, la carte est de là, qui quitte le Teil dans la vallée du Rhône, qui remonte par Alma, qui passe au nord d'Aubenas, et puis qui ensuite par Montbozat. Peut diverger, selon les périodes, à diverger, soit avec une branche qui partait vers la Lozère, soit une branche qui remonte jusqu'au puits, notamment par le Monacin. Alors, comment est-ce qu'on passe de ce réseau routier, antique que j'ai présenté très brièvement, au réseau routier médiéval, et qu'est-ce qui se passe déjà? Au Moyen-Âge, et c'est là que vous verrez que le réseau routier médiéval n'est pas nécessairement tributaire du réseau routier antique, et que certains de routes antiques ont pu perdurer, mais il fallait pour quelle période, quel est un usage, quelle est une utilisation au Moyen-Âge. Eh bien, sur le Moyen-Âge, on a peu d'éléments, je ne résiste pas à vous mettre à l'écran le propos de la ville de Saint-Amand, donc l'évêque de Rodez, qui mentionne qu'un homme du Gévaudan qui voulait acheter du vin se rendait en Septimanie, donc pour le Languedoc méditerranéen du Moyen-Âge, hein, et en indiquant qu'au retour vers sa ville, il traversa des montagnes aussi élevées, lorsque son attelage heurta un rocher, le récipient de vin tomba au fond de la vallée, puis ensuite, bien sûr, Saint-Amand a sauvé le vin, l'attelage, etc., et lui a permis de continuer. Et vous verrez que cette mention de commerce, de transport, en tout cas, de vin à travers les Cévennes, même s'il n'est pas forcément spécifiquement à travers l'Ardèche ou le Velay, mais sur des régions voisines, de même configuration géographique, vous verrez que ce transport de vin va préfigurer une large partie de ce que je vais évoquer par la suite autour du réseau routier. Alors, le réseau routier de la fin du Moyen-Âge, le réseau routier de la période 13e, vous verrez après pourquoi, je vais même dire jusqu'au 16e siècle, en période 13e, 16e siècle, fin 16e siècle, comment est-ce qu'il se présentait? Donc, pour établir la carte de ce réseau, en termes de méthode, je n'ai pas travaillé de manière régressive. Je ne suis pas parti des cadastres, je ne suis pas parti de la documentation cartographique du 17e ou du 18e, surtout du 18e. Je ne suis pas parti de la toponymie, qui permet de tracer des chemins dans tous les sens, mais je suis parti de la documentation médiévale. Considérant que si on voulait connaître une période, il fallait partir des archives, qu'elles soient des archives de la période, des documents matériels, des sources matérielles archéologiques de la période, et pas de période anciennes ou récentes. C'est pour ça, ce travail régressif, comme il a été souvent conduit, aboutit à figer dans le temps, à figer des réalités dans le temps, et à presque à... En considérant qu'il s'agit de temps long, d'histoire presque immobile, mais finalement en arriver presque à un propos ahistorique, atemporel des réseaux routiers, alors qu'on s'aperçoit que quand on travaille sur la documentation de la période considérée, on a des évolutions sensibles au cours de la période qu'on occulte si on ne travaille que de manière régressive. Donc en m'intéressant aux mentions médiévales directes de route, en limitant aussi la notion de route pour exclure tous les chemins locaux. Il ne s'agissait pas pour moi de travailler sur l'ensemble des chemins qui desservent les villages, qui relient les villages entre eux, mais de travailler sur un niveau de route, on va dire, à caractère commercial, un niveau de route relativement relativement développé, donc qui relie des points du territoire relativement éloignés. Et ensuite, en m'appuyant à partir de ces documents, à partir de ces sources, de ces mentions directes dans la documentation médiévale, en m'appuyant ensuite sur le terrain, sur les cadastres, etc., pour retracer les itinéraires, et pas pour les identifier, j'arrive à ce type de, à cette carte, qui représente à peu près 2000 km de, un petit peu plus de 2000 km de chemin, en limitant le propos aux axes les plus importants. Alors, comment est-ce que ce réseau de routes, de chemins importants à la fin du Moyen-Âge se présente dans la région? La première chose qui saute aux yeux, à mon sens, c'est la densité de ce réseau. On a un réseau qui est dense, qui est équilibré sur l'ensemble du territoire. Il ne laisse aucune région du territoire, ou presque, et ce presque à son importance, aucune région du territoire, ou presque, à l'écart des circulations. Quand on pense à Ardèche aujourd'hui, on imagine un département, un territoire qui est difficile à circuler, qui est contourné par tous les grands axes de circulation. On s'aperçoit qu'à la fin du Moyen-Âge, ce n'est pas le cas. On a un territoire qui est parcouru par nombre de chemins d'importance sur quasiment la totalité de son, quasiment la totalité de son territoire. On a des itinéraires qui sont hiérarchisés, qui apparaissent de manière hiérarchisée dans la documentation du temps, avec différentes catégories. On a les axes qui sont considérés comme des axes majeurs interrégionaux, ce sont des axes qui manquent dans la documentation, je vais citer quelques exemples, qui dans la documentation apparaissent comme des routes reliant des villes éloignées, reliant des pôles éloignés. Ça va être la route, par exemple, de Villiers à Paris, en passant par le Puy, est mentionnée comme telle. On connaît bien que, quand on est une vallée sévère, on mentionne de la route de Villiers d'Avignon au-delà à Paris, on n'est pas sur un itinéraire d'importance locale, on n'est pas sur le chemin qui va de l'église au château ou même d'un village A à un village B. Donc on a une première strate d'itinéraires donc interrégionaux majeurs. Ensuite, on a une seconde strate, un peu d'importance un peu moindre, qui est constituée par des itinéraires qui sont eux aussi désignés par des bornes, donc des origines et des destinations extérieures à la région, mais avec une plus grande proximité. Ça va être pour la strate itinéraire qui sont désignées par des villes qui sont aux limites de la région. Ça va être la route de Valence au Puy. Ça va être la route d'Alès-Amande, par exemple, si on sort un peu du, si on sort un peu de l'espace géographique envisagé de manière stricte. Donc, une strate d'importance régionale, on va dire. Et puis, à l'intérieur, encore à un niveau intérieur, on a une troisième strate qui est constituée des axes que moi j'ai appelé des axes régionaux ou intra-régionaux, qui sont toutes les routes qui relient les principales villes, les principales bourgades, c'est la notion de ville et de bourg, mais qui relient les principaux pôles urbains du territoire entre eux. Et puis, les strates intérieures, eh bien, ce sont les routes qui relient les villages entre eux, qui distribuent toutes les activités humaines sur l'ensemble des terroirs, mais celles-là, je ne les ai pas pris en compte. Donc, trois niveaux de hiérarchie pour les routes que j'ai étudiées au-delà des routes strictement, au-delà des routes strictement locales. Et si on veut les balayer rapidement, le principal écheveau de route qui quitte la vallée du Rhône et qui remonte par le Puy est un premier écheveau qui passe pour Saint-Andéol, Faucon, et ensuite qui relie le Puy. On a un deuxième écheveau globalement autour de la vallée du Doubs, de Tournon jusqu'au Puy par Saint-Agrève. Un troisième écheveau plutôt sur la vallée d'Arieux, donc quitte la vallée du Rhône au niveau de la Voulte qui remonte par le Chélard, mais c'est un écheveau de rang moindre que les deux précédents. On a une route importante qui passe par Privas-Mézillac qui ensuite donc rejoint le monastier avant de descendre sur le puits. La route la plus importante de la région qui est celle qui suit la vallée du Rhône au niveau de Viviers, qui ensuite remonte par Aubenas, la route vallée d'Ardèche, Montpezat et qui aboutit au puits. Alors celle-là, elle est mentionnée justement à partir de l'installation de la papauté à Avignon, elle est mentionnée comme la route d'Avignon à Paris. C'est la plus claire, on est sur la route la plus importante du la plus importante du territoire. Par ici, l'autre, elles vont par Aubenas et le monastier, ensuite le puits, et elles regagnent Paris. Le chemin est encore long, mais en direction du nord. Et puis, un certain nombre d'itinéraires sur le sud des Cévennes, sur le secteur des traverses, sur le secteur des Vences, entre les Vences et Joyeuses, hein, c'est des chevaux de route qui a son importance, vous le verrez par la suite, parce que c'est un ensemble de routes, c'est un écheveau de route qui aboutit à Pont-Saint-Esprit. Donc, lieu qui a une importance toute particulière pour la traversée du Rhône, notamment pour le bétail. Ça découvrirait ce que je vais dire par la suite. Quand je parlais de polarisation des itinéraires, je vous mets deux roses des vents pour vous présenter l'orientation générale des itinéraires des trois catégories que j'ai de routes que j'ai évoquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La première catégorie, ce sont les routes que j'ai évoquées d'intérêt, on va dire d'importance suprarégionale. Et les deuxièmes, troisièmes catégories, ce sont les routes qui traversent la région. La quatrième catégorie, ce sont celles qui restent dans la région. Lorsque je vous ai évoqué les deuxièmes et troisièmes catégories, je les ai regroupées parce que ça correspond globalement à la même réalité. Et ce que l'on constate, c'est que les routes qui traversent la région, qui partent de bien en deçà de la région et qui vont bien au-delà, sont des routes qui, globalement, vous le voyez sur la rose de gauche, sont des routes qui sont orientées sur les axes est-ouest, globalement. En tenant compte de la géographie, d'orientation des crêtes, des vallées, etc. On est globalement sur une orientation est-ouest, avec deux, sur la zone étudiée, deux exceptions, c'est deux grands traits quasiment nord-sud, c'est la vallée du Rhône et le chemin de Rigordane. Mais, donc on est pour l'essentiel de ces routes sur une orientation nord-sud, alors que les routes de quatrième catégorie sont des routes qui sont des routes d'importance interne à la région, qui sont des routes qui n'ont pas de polarisation, qui n'ont pas de polarisation particulière, et qui sont simplement tributaires de l'implantation des localités à reliquer. Alors, si on se pose la question du devenir donc du réseau routier antique dans ce réseau routier médiéval, qu'est-ce qu'il en est advenu? Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément ni de continuité ni de discontinuité, que la question elle n'est pas à poser, je crois, en ces termes, parce que les routes ont pu subsister en tant que support matériel de circulation, avec des aménagements différents d'une période à l'autre, mais au même endroit, on a pu trafiquer sur les mêmes segments de route, mais pour des itinéraires complètement différents. Donc il faut repenser le lien entre réseau routier antique et réseau routier médiéval au regard de la nécessité des circulations et pas simplement au regard de la subsistance de routes de voies antiques comme on peut souvent les voies romaines comme on peut les imaginer. Et je vous mets juste un exemple, on pourrait les multiplier, de cette question de succession des itinéraires. C'est la route qui quitte la vallée du Rhône, au niveau donc du Taillon Nord, Viviers, un peu plus au sud, et qui remonte jusqu'ici ou jusqu'à la Lozère. Et le tracé rouge que vous avez, c'est le tracé manifestement le plus ancien que les proto-historiens tiennent très probablement pour un tracé proto-historique. Et ensuite, eh bien, à l'antiquité romaine classique, au premier siècle et rebornée au second siècle, vous avez la route en jaune qui apparaît. qui est la voie d'Andonin, qui traverse le sud. Alors, les bordées de trentaines de milliards de portes. On connaît bien le tracé. Le jaune est invisible. Alors, voilà. Donc, cette route est petite, c'est la main du Rhône. Le avant Andonin l'oblige vers le sud pour descendre vers Barjac. Donc, elle est bien connue des environnants. Et puis, en bleu, vous avez la route qui est la route médiévale, donc d'Avignon à Paris, de Pitié, de Villiers-au-Puy, si on prend un segment plus réduit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que cette route, proto-historique, la route rouge, eh bien, elle subsiste encore en termes de tracé, et elle est encore utilisée en termes de tracé sur une partie de son parcours par la route du Haut-Empire. Elle est aussi utilisée sur une partie de son parcours un peu plus long par la route médiévale. Donc on a une, parfois une succession, parfois un abandon de ces, parfois un abandon de ces itinéraires, tout simplement parce que les nécessités de déplacement changent. Donc quand on est sur le, sur un tracé qui peut être réutilisé, qui peut continuer de vivre, continue d'être emprunté, eh bien la route proto-historique ou la route romaine continue d'être empruntée. Et puis si on est sur un tracé qui n'a plus vocation parce qu'il n'est pas orienté correctement, parce qu'il ne dessert pas les lieux qui justifient, qui ont besoin d'être desservis, après, bien cette route est purement et simplement abandonnée. Donc chaque période a sa cohérence en termes de déplacement, et cette cohérence en termes de déplacement, il faut la chercher dans la période même, dans les besoins de déplacement du temps, et pas dans un héritage des périodes précédentes. La route, doit, le terme français de route n'est pas très, pas précis, ne permet pas de distinguer la route objet matériel, la route tracé général et la route grand itinéraire. En français, on parle de route pour ces trois réalités. Dans la pratique, il faut les distinguer pour comprendre comment fonctionnent ces réseaux routiers. Et alors, je ne vais pas m'apesantir sur les questions de pèlerinage en étant ici, parce que je pense que vous connaissez largement les questions liées autour du liées au pèlerinage du Puy, mais je vais balayer les facteurs, les raisons qui induisent ce développement du réseau routier, qui induit cette polarisation du réseau routier entre la vallée du Rhône et les massifs centrales. Et ces raisons sont à chercher dans les trafics qui aboutissent à, au développement d'un certain nombre d'itinéraires. Il faut partir de l'idée de base que l'ensemble des territoires sont parcourus par des routes. À partir du moment où vous avez une activité humaine quelque part, vous avez des chemins qui relient des points où les hommes ont des activités. Et qu'il y a un certain nombre d'activités plus importantes, un certain nombre d'orientations de circulation plus importantes, parce qu'elles répondent aux besoins du temps, bien qu'ils se développent. Et qui vont passer du statut de simple chemin local au statut de route régionale ou supra-régionale, comme aujourd'hui. Et bien, on peut passer du statut de petit chemin rural qui relie une grange au village au statut de route plus importante qui ensuite se prolonge vers une autre localité, si une raison quelconque justifie bien que cet itinéraire soit prenne de l'importance, soit élargi, soit agrandi, et soit intégré à des circulations beaucoup plus larges. Et c'était la même chose, ça a été la même chose à toutes les périodes avec différentes modalités. Et donc les trafics qui traversent la région sont de plusieurs ordres, à commencer par le trafic pérégrinant, en sachant que la notion de route de pèlerinage, à proprement parler, est éminemment sujet à caution, et que vous n'entendrez pas l'employer, parce que finalement la route du pèlerin commence à s'emporter, son pèlerinage, à proprement parler, et bien évidemment qu'à l'approche des sanctuaires, quelle que soit leur importance, eh bien, le nombre de pèlerins augmente sur les réseaux routiers, mais je ne vais pas m'apesantir sur les différents types de pèlerinages. Juste évoquer le fait que nous sommes ici, quand je dis ici, sur, pas seulement ici au Puy, mais ici sur l'Ardèche et sur la Haute-Loire, nous sommes à proximité du Puy-en-Velay et pour faire la France, vous présenter l'importance du centre de pèlerinage du Puy lui-même et pas du Puy vers Compostelle comme on peut l'entendre régulièrement jusqu'à la nausée, mais bien du Puy pour le Puy à l'approche du sanctuaire marial du Puy. Évidemment que sur les routes de la région, on voit régulièrement apparaître des pèlerins qui sont nombreux. Ces pèlerins, on a beaucoup de mal à les distinguer dans la documentation à la fin du Moyen-Âge. Individuellement, on ne les dénombre pas sur le réseau routier. Pourquoi ? On a du mal à les distinguer. On ne les distingue pas parce que déjà, ils bénéficient des exemptions de péage, donc ils ne payent pas. Du coup, on n'a pas aucune comptabilité de péage pour ces pèlerins. Ce sont pas des voyageurs qui font des affaires, donc on ne les voit pas apparaître au 14e, 15e siècle en documentation notariée. Ils ne sont pas là pour des affaires, donc ils ne contractent pas, ils n'ont rien à vendre, ils n'ont rien à acheter. Du coup, ils sont assez transparents pour la documentation. Quand des voyageurs sont agressés, sont dépouillés, ce ne sont pas généralement par des pèlerins, ce sont des marchands qui sont bien volés. Le pèlerin n'a pas de bien, n'est pas une proie intéressante pour un voleur quel que soit. Donc on a beaucoup de mal à cerner ces pèlerins. Donc je passe sur ces diapos qui habituellement me servent à présenter le pèlerinage du Puy, l'hôtel Dieu du Puy, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus ici. Simplement, pour en arriver là, à une carte des hôpitaux, pour laquelle je reviendrai quand je parlerai de l'accueil du voyageur, mais une carte des hôpitaux qui se situe dans les villages complètement le long des routes sur les axes qu'on verse vers le Puy, pour vous faire remarquer que l'hôtel Dieu du Puy possède sur l'Ardèche un certain nombre d'établissements hospitaliers, qui sont des établissements hospitaliers qui sont sur les routes, en milieu isolé, et que l'on retrouve sur les principaux axes qui convergent vers le Puy. Alors, ce sont les zones rouges, les bleus sont des hôpitaux qui dépendent d'autres institutions, ou alors des hôpitaux dont on n'a aucune idée, dont on ne connaît pas l'appartenance. Donc, il est tout à fait possible que dans les hôpitaux bleus, il y en ait qui pourraient dépendre de l'hôtel du Puy, mais pour lesquels on n'a pas d'informations. Donc vous voyez déjà que ces routes qui proviennent de la vallée du Rhône, eh bien, sont jalonnées d'un certain nombre d'établissements relevant de l'hôtel Dieu du Puy. Mais je ne vais pas m'apesantir sur la question des pèlerinages, je voudrais surtout évoquer la question commerciale, la question des flux commerciaux. Parce que c'est finalement cet aspect, je pense, des circulations qui est le plus important pour expliquer l'organisation du réseau routier. Alors je ne sais pas si la carte est visible, pas forcément, mais j'ai évoqué en introduction la situation de frontière géographique, la situation de frontière agricole, agronomique, entre d'un côté les hauteurs des Massifs centrales et de l'autre côté les basses terres du Languedoc. Et je vais appuyer mon propos sur cette complémentarité, cette opposition entre des zones de montagne et des zones de plaine relativement proches. Les zones de montagne sont en mesure de produire ce que les zones de plaine ne produisent pas et réciproquement. Ça, donc, dans un éloignement géographique relativement réduit avec des capacités agricoles qui sont complètement différentes et complètement complètes. Il y a peu de production qui sont les mêmes sur les hautes terres du Massif central et dans les plaines du Languedoc, avec en plus, sur la base de la vallée du Rhône, une concentration urbaine, une concentration de population urbaine, qui est à souligner, vous verrez, qui aura son importance. Alors dans les flux commerciaux orientés de la plaine vers la montagne, et là ce sont principalement les tarifs de péage qui nous permettent de connaître ces flux, agrémenter, compléter l'acte notarié qui porte sur les transactions, les achats et des ventes de, des achats et des ventes de produits, donc dans les flux commerciaux des plaines vers la montagne. Le premier, indéniablement, la première des denrées et première des matières premières, bah, au-delà même de la consommation en termes de denrées, eh bien, c'est le sel méditerranéen. Je vous mets juste un exemple donc, pour vous situer les choses, hein, je prendrai juste la première ligne du tableau, hein, le tirage du sel sur la vallée du Rhône en 1448, pour ce que l'on peut connaître des sources disponibles, on arrive à 13 800 tonnes de sel qui remontent par la vallée du Rhône. Tout ce sel vient par ici, et c'est du sel qui quitte les étangs de Languedoc, 13 800 tonnes, et qui ensuite, eh bien, va être distribué de part et d'autre de la vallée du Rhône. Et quand on dit de part et d'autre de la vallée du Rhône, eh bien, c'est jusqu'en Velay et au-delà, en Auvergne, par la, en traversant donc les Cévennes et l'Ardèche. Comment ce trafic était organisé? Ce trafic était organisé de manière unitaire et publique jusqu'à Port-Saint-Esprit. Et ensuite, vous revenez de Port-Saint-Esprit, et ensuite le sel était redistribué dans des greniers échelonnés le long de la vallée du Rhône, puis c'est sur ces greniers que les marchands, que les muletiers, venaient s'approvisionner pour redistribuer le sel jusqu'ici, jusqu'en Velay, jusqu'en Auvergne. Et je vais vous parler de la route qui passe au sud des Cévennes vers les Vents Joyeuses et qui ensuite soit rejoint la route de Régordane vers Villefort, soit ressort au niveau de Pradelles. Donc cette itinéraire, cette transverse qui vient donc de la base de l'île du Rhône vers le Velay, eh bien c'est sur cet itinéraire que le trafic du sel était le plus important, avec le rôle du grenier à sel, le rôle central du grenier à sel de Pont-Saint-Esprit. Et c'est par là que les principales cargaisons de sel à destination du massif central passaient. Le sel n'est pas le seul produit, bien évidemment, qui remonte. L'autre produit remontant important, certainement, on a du mal à le quantifier, mais certainement moins important que le sel en termes de volume global transporté, mais certainement ayant plus d'impact sur la sur l'économie et la société du pied des Cévennes et de la vallée du Rhône, l'autre produit, c'est le vin. Ce vin, on le distingue très nettement dans les tarifs de péage, mais on le distingue surtout de manière beaucoup plus, précise dans les transactions, tout simplement les achats et les ventes de vin directement conclus soit par des marchands et des producteurs et des viticulteurs, j'en pose le terme à dessein, des viticulteurs et des Cévennes du nord de la vallée du Rhône, et des acquéreurs qui sont, vous le voyez sur la carte, les points blancs ce sont les vendeurs, les points rouges ce sont les acquéreurs, qui sont situés bien, largement sur le Velay et puis au-delà sur l'Auvergne. Donc les ventes de vin qui figurent sur cette carte, ce sont les ventes de vin conclues entre 1350 et 1450 uniquement dans les registres de notaires qui peuvent subsister sur le sud de l'Ardèche et sur le nord de la vallée du Rhône. Donc on voit très bien une zone de production importante sur le quai des Cévennes, ardéchoises, donc Aubenas au nord et au sud jusqu'au vent, c'est qui va se poursuivre jusqu'à Alès. J'ai pas fait le même travail de dépouillement jusqu'à Alès, mais en parcourant les registres, on constate qu'il y a aussi énormément de d'achat et de vente de vin. Et puis sur le nord de la vallée du Rhône, dans le secteur donc de Tournon, Cornas, Saint-Péret, le secteur de l'appellation d'origine contrôlée du nord, donc Saint-Joseph, Cornas et Saint-Péret. N'oublie pas que ce vin était vendu à l'époque, était déjà du vin de l'appellation contrôlée d'aujourd'hui, pas du tout. Mais ce flux qui se développe à travers la région. Alors ce vin, bah, effectivement, on le voit comme ça, sous forme d'achat de telle personne. aux écharponistes qui vendent une rente perpétuelle d'une sommée de vin à un marchand qui est à l'intérieur de, à une personne, pas un marchand qui est à l'intérieur de l'Ardèche, Bertrand Fabre, pareil, qui vend, donc lui, pardon, lui achète du vin à Cornas, etc. Et on a toute une série de contrats de ce type. Tant et si bien, je reviens sur la carte, tant et si bien que, parallèlement à ces contrats de vente de vin à destination des hautes terres du Massif central, eh bien, on constate dans la documentation foncière que les régions du pied des Cévennes et du nord de la vallée du Rhône, à partir des années 1320, peut-être un peu avant, mais là on manque de sources assez claires pour l'affirmer, mais en tout cas à partir des années 1320-1325, sont deux régions sur lesquelles se développe un vignoble à caractère spéculatif, tant et si bien donc, qu'on a des exploitations qui sont totalement centrées autour de la vigne à partir des années 1350. Quand je dis totalement centrées autour de la vigne, c'est que et c'est extrêmement net à partir, c'est extrêmement net dans l'enquête fiscale de 1464, on a des exploitations où la vigne représente plus de 90% des parcelles. Des exploitations où il n'y a quasiment plus de parcelles d'emblavure, donc des exploitations qui ne sont pas en mesure, avec des paysans qui ne sont plus en mesure de subvenir aux besoins de leur famille avec leur propre exploitation. Et à ce moment-là, eh bien, ces paysans, on leur, les scribes, les notaires leur affectent un métier comme un artisan, et ils sont dit viticulteurs à ce moment-là. Ils sortent de l'état de paysan qui produit sa propre subsistance pour aborder, pour être arrimé à finalement des artisans qui ont une profession à proprement parler. Cette profession, c'est la production du vin à destination de la subsistance. C'est pour ça que je dis que cet aspect, ce segment du commerce a un impact extrêmement fort sur sur la société paysanne au pied des Cévennes et dans le nord de, et dans le nord de la vallée du Rhône. Alors c'est pas le propos ici de s'étendre sur cet aspect plus lié à l'histoire des des campagnes. On a d'autres produits qui transitent de la basse vallée du Rhône et de la vallée du Rhône vers le Massif central et qu'on le retrouve là pour le coup dans quelques inventaires après décès marchands que l'on va retrouver dans quelques transactions, mais surtout dans les tarifs et les registres de péage. Eh bien, ce sont des produits d'importation de provenance française ou clairement méditerranéenne que l'on va retrouver. Ça va être alors là un inventaire à la Prévert. Ça représente probablement pas beaucoup de volume, mais ça représente une certaine diversité et sans doute une valeur non négligeable sur les parmi les produits qui circulent. Eh bien, ça va être des épices qui sont mentionnées de manière extrêmement régulière dans les tarifs de péage, à commencer par la principale d'entre pour pas dire quasiment la seule d'entre qui est le poivre, et l'épice dominante dans les tarifs de péage. S'il y a une épice qui est spécifiquement mentionnée, c'est le poivre. On va retrouver aussi des soieries. C'est relativement rare, mais c'est présent. Là aussi, c'est présent principalement sur les tarifs de péage qui pèsent sur deux routes, la route donc de Villiers puis et la route d'Evance, en fait d'esprit d'Evance Madel, qui sont les routes qui proviennent le plus directement de la Méditerranée. C'est pas forcément illogique. Des mentions autres, c'est ce que je représente juste à titre d'illustration sur la petite vignette d'en bas à gauche, des mentions assez systématiques de tonneaux, de barils de poissons salés que l'on va retrouver dans quasiment là, tous les registres, tous les tarifs de péage, par contre. Donc toute une série de produits qui montent et qui complètent finalement ce commerce du sel et du vin, qui sont les deux éléments majeurs en termes de production. L'huile est aussi un produit qui monte vers les hautes terres, mais en quantité relativement limitée. D'autres matières grasses pouvaient être utilisées, à commencer par les matières grasses animales. Donc l'huile n'est pas, contrairement à l'Antiquité, n'est pas un produit de grand commerce à la fin du Moyen-Âge. On la mentionne de manière presque anecdotique, parce que on la voit dans la documentation, mais relativement peu, en tout cas bien moins que les autres produits. Alors comment, à l'inverse, comment est-ce que, qu'est-ce que les hauts pairs ont à proposer aux, ont à proposer aux, à la base de la vallée du Rhône, à la vallée du Rhône et aux Languedoc? Et en quoi est-ce que ces hauts pairs peuvent alimenter ce commerce à travers la région? Et le principal objet de commerce pour donc des hauts pairs du Massif central vers la vallée du Rhône, le principal objet de commerce, c'est le bétail. Pas la viande, c'est bien le bétail. Faut que vous mettez en tête que au Moyen-Âge, on ne commerce pas de la viande, mais on commerce des animaux sur pied. Ce qui a son importance après sur l'organisation notamment du travail du cuir. Mais donc, on commerce des animaux sur pied et on a régulièrement dans les registres de nos terres des mentions de marchands, d'éleveurs, de maquignons du Massif central qui traversent la région. Ceux-là sont habitués à avoir des difficultés sur leur parcours, soit des difficultés de voisinage, parce que les troupeaux de quelques bêtes, de quelques dizaines de bêtes maximum qui les emmènent vers la vallée du Rhône, eh bien, causent des dommages le long des routes. Peut-être qu'ils avaient plus de moyens, mais en tout cas, ils sont plus souvent sujets à des agressions que les autres types de marchands, hein, que les autres transporteurs plutôt que marchands. Bon, à la fin du Moyen-Âge, il faut bien faire la différence entre le marchand et le transporteur. Hein. Donc le bétail sur pied est un produit qui traverse les routes de la région et là plus précisément en convergence vers Pont-Saint-Esprit. Pourquoi Pont-Saint-Esprit? Pour aller alimenter les marchés urbains de la basse vallée du Rhône, parce que c'est l'orientation générale du flux vers les villes qui sont les consommatrices de viande, et aussi parce que traverser le fleuve, traverser le Rhône avec un troupeau, il est quand même infiniment plus simple de passer sur un pont d'un point de vue technique que sur un bac, et donc le pont de Pont-Saint-Esprit joue un rôle finalement de concentrateur pour ensuite redistribuer vers les marchés de la basse vallée du Rhône. Je vous mets juste un exemple qui est l'approvisionnement, parce que là il est connu, il est bien connu, il a été étudié. J'ai fait la carte, mais les données ne sont pas de tracer la carte, mais les données ne sont pas de moi, elles sont des chiffres sur l'alimentation en bétail du marché de Carpentras. Vous voyez d'où viennent les bêtes qui sont débitées, d'où viennent les bovins qui sont débités sur le marché de Carpentras dans la première moitié du XVe siècle. C'est assez net comme polarisation de l'approvisionnement. On pouvait faire la même carte pour d'autres villes, pour Avignon. Même configuration pour Montpellier plus au sud, on est aussi dans la même configuration. La traversée des Vennes plus méridionale, mais c'est la même chose. Autre produit que l'on rencontre sur les routes, mais de manière beaucoup plus marginale, le fromage. Ce fromage qui est produit donc pendant les élevages sur les hautes terres est un produit qui est présent. On le trouve mentionné dans les registres de péage. Mais c'est un peu comme l'huile dans le sens de la montée, je dirais. Il est présent, mais relativement peu, et on n'a pas de contrat d'achat de fromage en nombre, etc. On le voit dans les tarifs de péage, mais on a du mal à le cerner dans les actes d'achat et de vente. Sans doute que le fromage, bien que présent, n'induisait pas des volumes significatifs en termes de transport. La laine est présente aussi, mais c'est pas non plus ce qu'on voit, c'est non pas non plus le produit dominant dans les tarifs de péage, ni dans les registres de péage pour les quelques registres qui sont conservés. Donc je ne vais pas m'y appesantir. En revanche, autre facteur qui a pu induire une polarisation du réseau routier entre Vallée du Rhône et Haute-Terre du Massif central, eh bien, c'est la transhumance. Je vous ai mis ici, je ne sais pas si vous arrivez à le lire depuis le fond, je vous ai mis ici une carte de la région que je vais vous commenter, parce qu'elle n'est pas forcément très nette, avec les principaux établissements ecclésiastique et l'organisation de la transhumance qui découle de l'élevage massif que ces établissements développent à partir de la fin du XIIe siècle. C'est toujours ce qui est relativement ancien dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, puisque dès la fin du XIIe siècle, les principaux établissements ecclésiastiques de la région ont développé des stratégies, des grands troupeaux ovins et des stratégies pour mettre en place un élevage transhumant autour de ces grands troupeaux. Et donc j'avais évoqué, comme Bernard le rappelait, en 1997 au Monastier, l'essor de la transhumance inverse pour les troupeaux l'abbaye Sacha, ces troupeaux qui vont estiver dans la région du Sarès, donc derrière Cluas, non loin de la vallée du Rhône, entre Privas et Le Teigne, au pied du Poiron. Qui connaissent l'Ardèche, la région de Saint-Vincent de Barès principalement, mais ensuite les principaux pôles d'élevage, ce sont trois établissements cisterciens, deux établissements qui sont situés sur la montagnard des Chouans, Mazan et plus au sud des Chambons, et puis un troisième établissement qui est outre-Rhône dans la Drôme actuelle, qui est l'abbaye Terrelle. Mais je dirais peu importe où se situe l'abbaye en termes de flux sur les routes, puisque Mazan et les Chambons développent des domaines transhumants sur le pied des Cévennes. Aiguebelle développe des domaines transhumants d'été aux portes de l'abbaye de Mazan, au pied du Mangerbiégeon. Et cette transhumance, de manière concrète, met en jeu plusieurs milliers, même plusieurs dizaines de milliers de têtes de moutons, puisque on arrive à estimer les troupeaux de l'abbaye d'Aiguebelle, qui, au regard des pâturages, sont dans la moyenne de ce que l'on peut imaginer sur le secteur. Et ce sont des troupeaux qui, dans les années 1370-1380, dépassent les 10 000 têtes de moutons. Et puis les pâturages maîtrisés par l'abbaye d'Aiguebelle sont identiques en surface, à peu près, à ceux maîtrisés par l'abbaye des Chambons et l'abbaye de Mazan. Donc on peut estimer que leurs troupeaux sont, si on n'a pas d'éléments quantitatifs à nous mettre sous la dent, on peut estimer que leurs troupeaux sont à peu près équivalents. Donc on est probablement, au regard du nombre d'établissements qui transhument, on est probablement autour de 40 à 50 000 moutons qui transhument entre les hautes terres du Vivarot, du Sabot, du Varot-Velave et le pied des Cévennes ou la vallée du Rhône. Là aussi, donc, cette transhumance, elle se fait, c'est-à-dire la géographie générale de ce trafic, elle se fait sur un axe, sur une orientation générale, est-ouest ou est-est, selon le sens de circulation. Donc, on a un troisième flux qui vient induire un développement après les pèlerins, dans une certaine mesure, le trafic commercial essentiellement, et bien le trafic transhumant vient étayer le développement prioritaire des routes entre l'est et l'ouest, entre les Hautes-Terres et la vallée du Rhône. C'est une transhumance plutôt de type inverse, donc ce sont des troupeaux qui sont stationnés sur leur terre d'origine en été, et puis qui sont envoyés en hiver en transhumance. Sur des terres plus clémentes, des pas de neige et où ils peuvent être à l'année. Donc c'est même une logique inverse, entre une transhumance inverse par rapport à ce que l'on considère comme une transhumance conforme, qui est de la plaine vers la montagne. Mais en termes de déplacement, en termes routiers, ça ne change rien que les troupeaux partent dans un sens ou dans l'autre vers leur domicile, si vous avez l'explication, ou vers les zones de transhumance dans un sens ou dans l'autre. C'est pareil. Et ça génère des trafics qui sont, là aussi, des trafics est-ouest, avec une particularité, en tout cas quelque chose qui se remarque, qui demanderait à être travaillé sur d'autres régions aussi, c'est qu'au final, comme on a une région qui est parcourue par de nombreux axes à caractère commerciaux, eh bien, les routes de transhumance et les axes commerciaux ne se distinguent pas. Et les troupeaux transhumants, pas systématiquement, mais pour l'essentiel de leur parcours, sont sur les mêmes routes que les mêmes tracés de la marchandise, puisqu'ils suivent la même orientation générale pour aller de la même région vers la même destination. On n'a pas de dissociation entre des réseaux routiers à caractère commercial et les réseaux de circulation liés à la transhumance. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions. Il n'y a pas de trafic commercial, il n'y a pas de trafic marchand. Eh bien, on a un réseau routier spécifique qui est en place pour la transhumance. C'est le cas dans les Alpes, dans le sud des Alpes, hein, entre la Provence et la Haute-Provence ou les Hautes-Alpes. Mais chez nous, on a finalement une confusion de ces deux, réseaux. Pour pas abuser de votre temps, je voudrais, après avoir évoqué l'organisation générale du réseau routier, en arriver avec quelques exemples à parler de la route elle-même, et non plus des réseaux dans leur ensemble, de l'organisation générale des réseaux routiers, mais de la route en tant qu'objet. Comment est-ce que cette route médiévale dans la région, entre les Hauts-de-France et la Suisse centrale, pouvait se présenter? À quoi elle correspondait matériellement, physiquement? Quel était son mode de vie? Et au travers de quelques caractéristiques qui ressortent, des tracés qui ont pu être restitués. Et la première caractéristique de ces, routes, c'est que ce sont globalement des routes extrêmement directes. Ce sont des routes qui ne connaissent pas, qui ne s'encombrent pas, si vous me passez l'expression, de tours et de dépôts. Quand je parle de routes directes, ce sont des routes qui vont affronter très clairement le relief, qui vont être des routes qu'aujourd'hui on considère comme difficiles, mais qui sont la plupart du temps des routes qui empruntent le tracé le plus court. Et je mets juste un exemple à l'écran, pardon, un exemple, et on pourrait en prendre beaucoup d'autres, hein, de la route qui va d'Aubena à au Chéla, dans le centre de l'Ardèche, en passant par le col de Mézières. Ce col, il est à 1119 mètres, hein, sur le bord ouest du, le bord est, pardon, du plateau de Choix. Et très rapidement, et la route dégringole et tombe à 800 mètres au fond de la vallée de la Dorne. Avec seulement quelques lacets, on a une route qui est extrêmement directe dans la pente. Tant et si bien que le tracé aménagé à la fin du XVIIe siècle, qui est toujours le tracé de la route départementale contemporaine, la route départementale numéro 2, eh bien, ce tracé roulable, vous l'avez ici, avec le détour que cela induit. Et en termes de pente, eh bien, vous avez à gauche en très plein le profil de la route médiévale. Pour partir du même point, probablement au même point. Hein. Donc vous avez à gauche le profil de la route médiévale, et à droite le profil de la route moderne, moderne au sens historique du terme, et je dirais aussi route contemporaine, puisqu'elle est toujours en premier. La route actuelle, c'est 3,9% de pente, la route issue du XVIIe siècle. La route médiévale, c'est 11,8% de pente. C'est ce que j'appelle une route brutale, une route directe qui ne s'encombre pas des tours. Vous avez une autre illustration de cette évolution avec la sortie du village de Saint-Laurent-les-Bains pour remonter vers les limites avec la Lozère. Hein. Le tracé médiéval, c'est le tracé jalonné de petites flèches rouges. Vous voyez ici, c'est un tracé qui sort et qui monte en lacet extrêmement raide, il y a aussi deux tours, mais qui monte en lacet extrêmement raide, et qui sort ici au col qui domine Saint-Laurent-des-Bains. La route actuelle, elle va là, elle sort loin de la diapo, elle n'est pas toute, elle revient ici, puis elle redescend au village. Vous voyez la différence d'organisation des tracés sur les versants. Ça, c'est le plan de la diapo précédente. Donc ces routes, elles sont brutales dans le relief. Autre caractéristique, ce sont des itinéraires qui sont étroits. Ce sont des routes qui, pour la plupart, n'acceptent pas de véhicules, on va dire, au sens large du terme, hein, au sens très générique du terme, de plus d'1,50 m, 1,60 m de largeur. Et ce sont des routes qui sont marquées dès qu'on a du relief par des épingles à cheveux comme celles que vous voyez ici, qui sont bordées de murets. Sur la diapo en haut à gauche, c'est une route qui est au-dessus d'Al Gorn et qui remonte vers Langogne. Cette route, elle est un peu plus large que les autres. Elle fait 1,80 m de largeur seulement, de mur à mur. En sachant que c'est pas la largeur la plus large qu'il faut compter, mais la plus étroite. Hein. C'est bien le point le plus étroit qui limite le tracé.
Comment les routes, étant brutales par rapport au relief, on va franchir parfois des passages avec,
on retrouve encore dans la toponymie, on retrouve encore sur le terrain, on va trouver dans la toponymie sous le nom d'échelette. Dans la toponymie médiévale, hein. Ce sont des passages aménagés avec des marches taillées dans le rocher pour pouvoir franchir un passage difficile. Ou alors, ce que l'on retrouve aussi mentionné régulièrement, des cavés comme celles que vous avez à l'écran. Des passages creusés dans le rocher sur quelques mètres pour ne pas contourner un obstacle mais pour le franchir de manière la plus et même sur des zones qui sont des zones plutôt de relief mou, de relief non contraignant, eh bien on a des routes qui ne sont pas larges. Ça c'est en face de la ferme de Bourlatier sur le plateau Rendez-Vous. C'est une route que une des grandes routes de la région à la fin du Moyen Âge. Et vous voyez la dépression, le chemin creux encore bien visible sur le terrain. Et là, même sans contrainte particulière, le chemin au plus étroit oscille entre 1m60 et 1m70 de largeur. Donc on n'est pas sur des itinéraires larges. Et la plupart de ces itinéraires sont marqués. Alors là, c'est un exemple urbain facile à photographier, mais la plupart de ces itinéraires sont marqués par des aménagements en padane, ça porte bien son nom, donc en marche longue, mais qui sont autant d'aménagements qui sont adaptés à la circulation des mulets, mais pas à la circulation routière. Le terme de padane a tout son sens puisqu'il permet à un animal de se stationner sur une marche. Les marches sont suffisamment larges pour que l'animal ne soit pas à cheval sur deux marches en même temps, c'est pas un escalier. Autre indication, sur la largeur des routes, je vais pas le développer, c'est la question des ponts. Je vais juste mentionner un exemple qui est un maillon étroit sur un réseau routier, un exemple parmi d'autres, le pont de Darutel à côté de Jaujac, sur la route qui va d'Aubena à Pradel et qui va au-delà de la vallée du Rhône au Puy, c'est celle qui est mentionnée d'Avignon à Paris à plusieurs reprises. Eh bien, la route d'Avignon à Paris, elle a une largeur utile sur le pont de 1,50 m seulement. Donc, n'imaginons pas des grands axes roulables, mais ce sont pour autant des axes qui remplissent complètement leur mission. Tout simplement parce que le seul et unique moyen de transport jusqu'à un 16e siècle avancé, même quasiment jusqu'au début du 17e siècle, il n'y a pas de roulage entre le milieu du 16e siècle, où on commence à avoir les premières mentions plus précises concernant les attelages potentiels, concernant les modes de transport et la fin du 16e siècle, il n'y a pas de mention de transport par roulage. Le roulage existe, les charrettes existent, mais ce ne sont que des attelages pour des usages locaux, pour des usages agricoles. Ce sont des attelages que l'on va retrouver pour transporter du foin, pour transporter des vendanges, pour transporter du bois, mais jamais, jamais, jamais comme vecteur du transport. C'est ce que j'évoquais un peu rapidement en début de propos. Le transport commercial est l'apanage, comme dans tout le midi méditerranéen, et là on est bien dans le midi méditerranéen, et l'apanage du mulet. Et je vais juste faire une petite précision sur la capacité d'emport d'un mulet en termes de charge. On imagine comme ça couramment qu'un charroi a une capacité de transport plus élevée en termes de charge plus élevée que des mulets. Et bien on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas. on a un marchand de millau qui en 1752 précise les choses, qui indique qu'un mulet emporte 4 quintaux, soit entre 160 et 160 kilos donc de marchandises. Une coupe de 9 mulets, la plus courante, emporte autant qu'un attelage de 35 à 40 quintaux, soit environ 1500 kilos de charge. Donc autant dire que le transport, pour être très clair, le transport à dos du mulet, qui est dominant dans tout le midi méditerranéen, dans tout le midi du parc méditerranéen, sur le sud-ouest, mais c'est le cas aussi, ce transport à dos de mulet est aussi efficace que est aussi efficient que le transport par charrois que l'on trouve dans la région septentrionale de l'Europe. Et en tout cas, ce transport à dos de mulet est parfaitement adapté au réseau routier que l'on a, ou le réseau routier est parfaitement adapté au transport à dos de mulet. Je n'accepterai pas une origine du réseau routier, de l'état du réseau routier dans le mulet, ou l'usage du mulet dans l'état du réseau routier, mais constatant qu'on a un couple technique qui fonctionne, et qui fonctionne bien, qui est équilibré, et qui permet à l'économie de fonctionner, qui permet de transporter les marchandises qui sont à transporter. À partir du 17e siècle, les choses évoluent, se cassent, c'est pas l'expression, on pourra en parler après, c'est pas directement, mais retenons qu'on a un réseau routier qui est efficace et qui remplit sa fonction en termes de, qui remplit sa fonction en termes de transport. Je vois que le temps tourne, je vais pas m'apesantir sur le transport à dos de mulet, mais juste pour terminer, évoquer quelques aspects de la vie autour de la route, et principalement deux aspects qui témoignent de l'importance des flux, qui témoignent de manière indirecte de l'importance des flux sur les routes de la région. Et c'est d'abord la question de l'accueil du voyageur, puisque qui dit voyage, qui dit voyage en montagne, dit nécessairement accueil de ce voyageur. La documentation littéraire mentionne souvent, c'est même relativement, figure de style, mentionne des voyageurs qui dorment dehors, qui sont contraints de dormir dehors, donc c'est une réalité qui était présente, mais dans les régions de montagne, les choses sont à considérer quand même un peu différemment, et on a une armature hospitalière et hôtelière qui est importante, et là je citerai, n'est pas au Moyen-Âge, mais je citerai le même marchand Millavois qui indique qu'à Pradelles, en Vivarais, le froid est beaucoup plus rude. Le plus souvent, les portes et les fenêtres sont fermées par la neige. Il est arrivé à bien des marchands et des voituriers allant au fort du puits d'être obligés de s'en retourner sur leur phare en Languedoc. Ils nous entreprennent de passer plus avant et par même impossible de le faire à cause de la grande quantité de neige ou glace. Ils ont la crainte qu'on ne les trouve morts sur la neige comme on en a trouvé presque chaque année. Ce que ne justifierait que trop par les registres mortuaires de chaque paroisse du Vivarais. Il m'est arrivé alors à la foire de Toussaint-au-Puy de m'en revenir à Millau à une heure de chemin après Mende, dans le même temps que bien des marchands en Languedoc, mon petit Jim, s'en retourner à Pradelles à cause du froid qui est. On laisse à penser cette chose étant arrivée en automne, que ne doit-il pas y arriver en hiver? Donc cette question de l'accueil du voyageur, ben, elle est essentielle, elle nous ramène à ce que j'évoquais en parlant des pèlerins, qui est l'armature hospitalière le long des routes, et on s'aperçoit que bien qu'on ait une mauvaise connaissance documentaire de cette armature hospitalière, on s'aperçoit que on a une armature extrêmement. Alors oubliez les léproseries, le bleu foncé, une carte que j'avais produite pour autre chose. Donc, on ne tient pas compte de ce bleu foncé, mais on s'aperçoit que entre les points jaunes, les points rouges et les points bleu clair, eh bien, on a un nombre d'hôpitaux important, implanté parfois jusque le long des routes de manière isolée, comme sur les cols alpins, dans la même configuration que les grands hôpitaux alpins. Et on a des hôpitaux qui sont implantés sur les crêtes, sur les cols, et que l'on voit mentionner à partir de la fin du 12e siècle. Avant on a peu de documentation, et surtout des hôpitaux que l'on voit. Pour les hôpitaux isolés le long des routes, c'est pas le cas pour les hôpitaux qui sont en milieu urbain ou villageois, mais pour les hôpitaux routiers donc isolés dont l'existence est vraiment liée à l'accueil du voyageur de par leur position, on les ferme à la fin de leur vie lorsqu'ils disparaissent, puisque ce moment-là que la documentation devient plus nombreuse. On les cerne à partir de la deuxième moitié, pardon, la documentation devient plus abondante, on les cerne à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, lorsqu'ils disparaissent. Et ces hôpitaux sont progressivement remplacés, notamment une carte, elle est cachée, sont progressivement remplacés par une armature hôtelière payante, par des auberges, auberges urbaines et auberges rurales. On a mention d'auberges en milieu isolé, en site isolé, je dirais, comme on a des hôpitaux qui sont sur les crèches, sur les cols, sur des points de passage particulièrement difficiles qu'on voit disparaître à la fin du XIIIe siècle, eh bien, ces hôpitaux sont remplacés, ou pas sur les mêmes lieux, mais la fonction de ces hôpitaux est reprise à partir de la première moitié du XIVe siècle par des établissements d'accueil payants. Ce n'est pas un mouvement qui est général, qui n'est pas propre à la région, mais qui se remarque, s'observe très bien sur la région, avec des établissements hospitaliers qui disparaissent, des établissements d'accueil charitable qui disparaissent à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle, qui sont remplacés par une armature marchande, probablement liée au développement des circulations marchandes dans le courant du XIIIe siècle et au relatif déclin. Quand je dis relatif déclin, c'est déclin relatif de la part des pèlerins dans les voyageurs à compter du XIIIe siècle. Les besoins d'accueil, les attentes du pèlerin ne sont pas celles du marchand. Arrivé à l'étape, le pèlerin ne cherche pas la même chose du marchand et les fonctions que l'auberge peut apporter, que l'accueil, que l'aubergiste peut apporter à un marchand ne sont pas les fonctions qui intéressent nécessairement le pèlerin. Le marchand n'est pas en recherche spirituelle, donc l'aspect, le lieu de culte qui est présent dans tous les hôpitaux n'intéresse pas le marchand. Le marchand auprès de l'aubergiste va trouver parfois un relais commercial, va trouver des indications de nature marchande, va trouver d'autres activités de jeu, de prostitution, etc. Dans les auberges qui sont évidemment pas celles des hôpitaux, on change de monde en termes d'hébergement à la fin du les dernières années, les dernières décennies du XIIIe siècle, au profit d'un accueil beaucoup plus marchand. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le long de toutes ces routes, on a une armature à la fois d'abord hospitalière et ensuite commerciale et marchande d'aubergistes qui est bien présente et adaptée au réseau routier. Et puis le dernier point qui indirectement témoigne de l'importance de ces flux routiers, c'est le développement des péages et la perception réelle parce que de péages. Je dis bien perception réelle puisque on peut avoir mention parfois de droits de péage comme au château d'Entraigues, mais aussi l'indication qui va avec que les droits de péage ne sont pas prélevés parce que ils ne rapportent pas assez pour être prélevés. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque petit carré noir est un château péagé, un chef de mandement péagé, et donc on a des zones avec une très forte concentration de péages sur lesquelles chaque château, chaque château de châtellerie prélève un péage au 16e, entre le 16e et le 15e siècle avec une multiplication des péages, tant et si bien que pour aller de Villiers au Puy par Aubenas, quelle que soit la solution envisagée, il fallait payer entre 8 et 12 péages différents. Ils renvoient souvent à des sommes relativement modestes, car on a des tarifs. Mais avec une répétition du paiement, qui fait qu'au final, c'était pas modeste du tout. Je vais pas m'apesantir sur ce que Martin de Tremont a dû vous évoquer il y a quelques mois, sur les droits de péage, sur les péages autour des droits comtaux à Envelée. Mais là, on a des choses particulièrement intéressantes. Et pour terminer, je voudrais juste évoquer un peu le devenir de ce réseau routier médiéval. Eh bien, à partir du XVIIe siècle, la situation du réseau se complique. Elle se complique en plusieurs étapes. Elle se complique parce que charroi, le roulage, se développe dans les régions de plaine du milieu de la France.
le roulage n'y était pas développé au 15e, c'était fait. Même dans les régions pleines, on ne roulait pas pour le transport marchand pour cadeau de l'huile. Et bien, à partir de la deuxième moitié du 16e siècle, et surtout du 17e siècle, ce transport par roulage se développe. Et ben évidemment, le réseau routier qui, lui, que je vous ai présenté, n'est pas du tout adapté à ce, n'est pas du tout adapté à ce roulage. L'exploitation des forêts pour la marine à partir du 17e siècle, en forêt d'altitude, pour la marine à partir du 18e siècle, induit aussi une série de questionnements autour des routes du central, comme de celles qui partent des Pyrénées et des Alpes ou de l'Orient. Et tout cela aboutit à ce que le réseau routier médiéval que je vous ai présenté ne soit plus fonctionnel, ne correspond plus aux besoins du 17e siècle, ce couple technique entre le sentier quasiment et le mulet est rompu parce qu'on veut y rouler. Et, dessus. Et à partir du moment où on veut y rouler, il faut construire de nouvelles routes. Et ce réseau routier, au XVIIe siècle, on a les inspecteurs des eaux et forêts qui penchent dessus pour sortir du bois. Au XVIIIe siècle, ce sont les ingénieurs des ponts et chaussées qui se penchent sur ce réseau routier. Sous l'impulsion des États particuliers, du Lévis, du Vivarais, sous l'impulsion des États de Languedoc, sous l'impulsion des intendants royaux, qui, à partir de la fin du XVIIe siècle, vont projeter un certain nombre de routes, qui vont doubler les routes anciennes, qui vont doubler les routes médiévales, pour aboutir à ces routes que j'ai un peu évoquées, et qu'on connaît encore, qui correspondent au réseau routier départemental actuel, qui sont des routes avec portes lacées, tours et laitons, pour éviter les passages qui ne sont pas aménageables, parce que trop complexes, et ça nous laisse... Ça, c'est intéressant pour resituer les routes par topographie. Ça nous laisse des plans comme ceux dans les deux à l'écran, où on a, dans la première moitié du 18e siècle, au milieu du 18e, des plans qui mentionnent les tracés anciens, qui sont, on va les prendre comme tels, comme des tracés médiévaux, mais qui peuvent correspondre à un certain nombre de tracés médiévaux, et puis les tracés projetés, qui sont les tracés qui seront finalement construits au 18e, 19e siècle, et qui constituent notre réseau routier actuel. Avec l'apparition, là encore, d'auberges, de lieux d'accueil, j'en ai mis deux en photo, le Moulin Arctique, je m'en ai rendu du Bois des Esprits, qui construit au XVIIe siècle, l'actuel hôtel de l'Europe, qui est un hôtel depuis le XVIIe siècle, à Joyeuse, avec de grands bâtiments qui permettent l'accueil de Charpas, aussi. Et puis, une dernière vue pour terminer, qui illustre cette bascule d'un mode de transport à l'autre, c'est l'évolution du nombre de muletiers ou de voituriers présents à Villefort. On a un coup de projecteur qui est permis par la documentation sur Villefort. En 1703, il n'y a pas de voiturier. Il y a 22-23 muletiers, c'était rouge. En 1740, vous voyez qu'on a le croisement des courbes. Et juste avant la Révolution, début 1789, il n'y a plus de muletiers. Et le nombre de voituriers a un peu augmenté et a chuté. Ça signifie déjà que les routes de la région ne sont pas propices au transport par roulage et que les grandes circulations commencent à contourner les Cévennes, soit par Saint-Étienne, soit par le sud, et qu'on a une grande bascule dans le mode, dans l'organisation des transports et des réseaux. Merci.
Merci Franck, je savais qu'il serait bizarre, c'est évoqué. Personnellement, je voudrais rappeler, tu l'as dit, que mes amis préhistoriens et proto-historiens ont aussi quelques idées sur les désignages de marchandises. Je pense essentiellement que les historiens du silex, c'est comme ça qu'on trouve des outils, voire des très beaux poignards en silex du grand
précision.
Avec beaucoup de précision, comment?
On n'entend rien!
Les itinéraires à la période historique sont connus pour certains types de marchandises qui n'existaient pas chez nous. Je pense au silex, qui n'était que très mal remplacé par d'autres pierres, comme le basalte. Voilà. Et aussi par rapport à l'étang, évidemment, il y a quelques chose de l'étang, c'est plutôt une route qui commence avec avec la fin de la France, qui commence avec la France, et qui va continuer.
Qui n'est pas évoqué, c'est celui des mulets. Est-ce qu'il y a été étudié des relais pour les accueillir, les soigner, les nourrir, pour qu'ils se reposent, parce que si on ne soigne pas les mulets, ce n'est pas rentable pour les propriétaires. Donc, est-ce qu'on a repéré des infrastructures qui permettaient tout cet accueil et tout ce que ça compose comme soin?
Ce que j'ai évoqué comme hôpital routier et comme auberge, ce sont des établissements qui accueillent les voyageurs et qui ont double but. On n'accueille pas un voyageur ou un marchand, je passe, ou un transporteur. Le transporteur n'est plus le marchand. On n'accueille pas un transporteur sans accueillir son camion, sans accueillir la marchandise. Si on prend quelques exemples de bâtiments d'auberge, je vais rester prudent parce que on a du mal à les identifier, on n'en a pas pour le Moyen-Âge, on va en fouille. On a connu un certain nombre qui existent encore de nos jours, qui sont encore debout. Je pense à des bâtiments sur Montbeza, notamment au bureau, un bâtiment en particulier qui a servi d'auberge à partir de la centaine, au moins depuis la fin du XVIe siècle. C'est un grand bâtiment qui longe la route, avec aujourd'hui une partie, un rez-de-chaussée qui est en fait une immense étable, oui, gris, plutôt, et le premier étage, qui est réparti en pièces diverses, etc., qui est encore globalement resté dans son état, on va dire ancien, pas forcément de la fin du Moyen-Âge, mais en tout cas, sur cet établissement qui était une auberge, tout le rez-de-chaussée est une écurie. Si on prend les d'autres exemples, pour le Moyen-Âge, j'en ai pas, il y a des établissements qui ont été étudiés pour l'activité, mais pour le Moyen-Âge, c'est pas encore arrivé chez nous. En Italie, il y en a eu. Si on prend le cas des hôpitaux, on est plutôt dans une configuration un peu différente avec, d'un côté de la route, une chapelle, quelques bâtiments, et de l'autre côté de la route, des bâtiments d'accueil. Et quand on est dans un milieu périurbain, on peut retrouver une arche entre les deux. Une pièce bâtie sur une arche entre les deux. C'est la configuration de Tradel. Alors j'en profite, si vous connaissez quelqu'un qui me permette d'entrer et de visiter l'hôpital de Tradel, je suis preneur. J'ai visité plusieurs reprises.
Elle peut.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je suis architecte du patrimoine et je travaille sur Pradel justement.
D'accord.
Je serais ravi de.
Alors il faudra qu'on en parle.
J'ai eu par alliance.
Aller là pour pouvoir solliciter une visite, je n'ai pas eu de réponse. Donc.
Mais écoutez, on va régler ça.
On a un autre exemple en Espagne, à Ripoll, qui est en Catalogne, même système. Alors là, bien connu, j'ai pu visiter. On a d'un côté de la route, sur le côté sud de la route, sur le côté nord de la route, une chapelle et des bâtiments avec des pièces raisonnables, on va dire, qui font penser à des pièces d'accueil des voyageurs, et de l'autre côté de la route, là on a une immense pièce qui aujourd'hui sert de salle de réunion comme ici, qui je pense pouvait plutôt servir des.
À l'époque, on est dans la périphérie d'une immense abbaye,
aussi en plus.
Que médiéval, hein.
Voilà. Et à l'époque, cet hôpital, il est, comme souvent sous petits établissements, immédiatement à la sortie, après avoir franchi la dernière porte de la ville, en sortant de la ville, il est sur le début du faubourg, contre les remparts romains de l'exode.
Simplement, je vais parler de Ripoll en Espagne. Moi, la première fois que j'ai écrit à Xavier Barral, j'étais à l'époque directeur du musée de Barcelone, mon courrier est revenu, personne n'habite à l'adresse indiquée. Et Christian Laurenson m'a dit, mais qu'est-ce que tu as dit? J'avais dit Espagne. Il m'a dit, mais tu meurs, tu mets Catalogne. Sébastien.
Oui, j'avais une...
Idée après, si comme vous voudrez.
J'avais une question par rapport au drap. J'ai été frappé par la chance des draps dans les marchandises.
Sur les
alors,
illustrations.
Le drap est présent, mais il n'est pas très présent.
D'accord.
C'est surprenant. Moi aussi, j'ai été surpris. Je m'attendais à en trouver beaucoup plus par rapport à ce qu'on connaît de la production drapière. Mais je pense que cette production drapière, au final, est plus concentrée sur les plaines que sur les hautes terres. Il y en a. Mais alors, travaillant maintenant plutôt sur le commerce méditerranéen, moi ce que je vois affluer plutôt sur les ports du Languedoc, ce sont des draps produits dans le Lauragais, produits dans la région Nouvelle, produits dans le Thérois, Narbonnais, et un peu sur la Montagne Noire, un peu sur le sud du Massif Central, mais beaucoup moins que ceux produits en plaine. Donc 20 ans après, je me dis que finalement, on a peut-être l'autre face de la pièce finalement.
Et d'un autre côté, ouais. Ah ouais, d'accord. Et est-ce que vous voyez de l'alain ou pas? On sait qu'il y a des marchands du cul au XIIIe siècle qui vont acheter de l'alain à Marseille, donc je me demandais par où ils passaient. En fait.
L'alain fait partie de ces produits d'importation. Je n'ai pas donné tout le détail, mais avec les soirées de foire, etc., il y a de l'alain systématiquement dans les tarifs. Alors, les tarifs de péage, jusqu'aux années 1310, 1320, sont très brefs. Ils ne mentionnent pas toute une série de denrées. On va trouver les quelques denrées, quelques produits principaux, dans des ordres qui ne laissent pas apparaître un classement particulier. Et à partir des années 1310, 1320, les tarifs augmentent en nombre de produits, augmentent en détail. Et avec ce qu'on pressent, un classement en termes d'importance, en termes de volume. Donc on va commencer par les principaux, par le sel d'abord, le sel en premier, le vin, et puis ensuite on finit par suite à Saint-Avrois, mentionne même des singes. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de singes qui sont passés par c'était du singe déjà, non, ça ne devait pas encore exister. Voilà.
Ici.
Didier, les transhumants, est-ce que les employés des mêmes groupes? Parce que je vois mal limite dans le temps sur un groupe de 1m60.
Mais oui, quand on a les mêmes groupes, on est dans un relief qui est contraint. Alors attention, non, mais d'ailleurs, il n'y a pas de voiture qui est déjà. Attention, c'est que quand je parle de ce qui est content, je parle du troupeau, par exemple, un simple type de mouton, c'est le troupeau global, le chef d'œuvre global de la ville des pelles. Ça veut dire qu'ils sont arrivés dans un seul bloc. D'abord, ils ne partaient pas tous du même endroit, ils n'allaient pas tous au même endroit. Et ça, c'est quelque chose qui devait s'étaler sur plusieurs endroits. Oui, bien sûr, mais globalement, il peut y avoir des aménagements spécifiques par endroit, mais ça reste totalement l'objet des choses. Pour les faire participer, et sur le tracé, c'est la même chose. De toute façon, se poser la question de la traversée des ruisseaux, des rivières, qui se faisait sur les routes, et alors sur les quais, quand on est vraiment dans les semaines encaissées, c'est plus compliqué. Donc, ça passait au même endroit, ça passait même en ville, hein. Des litiges sont passés.
Didier?
Oui, merci énormément pour cet exposé. Je m'étais intéressé au groupe du vin des Suds au 18e, beaucoup plus modestement. Effectivement, je trouvais un certain nombre de clés dans votre exposé avec le passage du pied au roulage. Et notamment, il y avait une forte demande des États du Lyonnais, de développer cette route du Midi vers le Nord. On ne trouvait pas le même enthousiasme du côté des autorités auvergnates, pour lesquelles le produit était un itinéraire second. Évidemment, elle n'est pas fondamentale. Mais en tout cas, ces routes, ce que j'ai trouvé, c'est que ces routes du Vivarais par le monastier ont conservé leur intérêt local, notamment par des échanges, j'allais dire, sur une échelle beaucoup plus réduite. notamment les villages du haut prétoire des Choix, trouvaient, notamment pour leur charbon de bois, des débouchés sur la ville du Puy. Et le monastier était devenu, j'allais dire, comme un petit chef-lieu d'échange local, un point d'attraction important. Et puis après, il y a eu les grandes constructions au fin 18e de la route actuelle.
Voilà. Alors, il y a une réponse, je pense, si je me trompe, tu me corriges, c'est que les États du Blé, les États du Gévaudan, les États du Marais étaient sous la tutelle, plus ou moins, des États du
Languedoc.
Et la grande route, les grandes routes, je pense au pont de Gala, Afrique, qui a subi les semi-remorques du XXe siècle, voilà. Je pense à la prochaine maille, par route de Mal, c'est le dernier grand chantier commun aux États du Guinée, absolument. Et c'est là où arrive O'Farrell. L'ingénieur dépend des chaussées.
Oui. Tout à fait.
Voilà. Et ça dépend beaucoup, bien, alors qu'on est un pays, on est un pays d'État, les États du Languedoc. Alors que Lorraine est un pays d'élection. Et quand je dis que c'est une frontière, alors ça n'est plus très sensible que certains de mes confrères et amis que je c'est une frontière. C'est une frontière, ça n'est plus toujours une frontière, mais c'est une frontière. Et c'est une frontière, y compris du point de vue d'administration publique et d'administration juridique.
Absolument. Absolument. Et pour compléter juste un mot, la route de Mal, les élus du Velay et du Languedoc s'étaient véritablement battus pour obtenir des financements royaux. Hein. Et ils avaient obtenu des. C'était. En tout cas, c'est vrai que. Il y avait une demande des populations et qu'il y avait un certain dialogue.
Oui, il y avait une émission qui faisait
comme ça. En tout cas, merci énormément.
Pour comprendre la dynamique d'évolution des routes, il faut bien cerner trois niveaux dans ce que vous rappelez les routes. Il y a un niveau indistinct qui est celui des itinéraires de circulation. Nous, vous avez sur un territoire, peu importe lequel, vous avez un maillage de chemin. Qu'on peut considérer comme, dans l'absolu, comme tous égaux les uns les autres. Ce sont, parfois certains peuvent être plus importants, d'autres moins, mais on peut les considérer comme tous égaux parce qu'ils ont une première fonction qui est de desservir les cibles. Et quand on regarde les archéogéographes aujourd'hui tracent des réseaux routiers, ils partent d'abord d'une carte indistincte sur les réseaux routiers. Et à partir de cette carte qui correspond vraiment à l'armature routière, eh bien, on a un certain nombre d'itinéraires, donc d'axes de circulation préférentiels qui se développent. Donc des tracés qui prennent de l'importance pour une raison ou pour une autre, pour tel ou tel type de trafic. Et ça, c'est, ça peut durer relativement longtemps dans le temps, mais c'est toujours lié à un besoin de transport. Et ce besoin, à un moment donné, peut s'estomper, peut disparaître, mais la route ne disparaîtra pas. Parce qu'effectivement, si la route n'est plus la grande route d'Avignon à Paris, elle est toujours la route qui va desservir le champ de Paul, la ville de Pierre, etc. Donc le tracé persiste. Tant qu'on n'a pas de remembrement significatif dans les villages, le tracé persiste parce qu'il a une fonction locale. Et c'est plus du tout une grande route, mais l'itinéraire existe encore. Et donc comme ça peut se perpétuer longtemps. Et deuxième remarque, les circulations et donc les routes qui servent de support à ces circulations ont géré une relative autonomie, même une large autonomie, par rapport aux questions administratives, institutionnelles, de limites, etc. Que ça soit des limites nationales, à partir du moment où vous parlez d'État-nation, que ça soit des limites institutionnelles ou administratives au sein des régions. Qui traverse tout ça. Et dans le fait que les populations soient plus intéressées, soient plus attentives au développement ou à l'amélioration des réseaux routiers dans telle ou telle direction, on peut y voir l'impact ou une volonté ou un tropisme administratif, mais on peut aussi y lire en contrepoint l'importance des circulations, tout simplement le besoin de se déplacer. Et dans les préoccupations on a du mal à le cerner, mais on peut le résumer, l'entreapercevoir, dans les préoccupations des populations à partir de la fin du XVIIe siècle pour améliorer les routes dans telle ou telle direction, c'est probablement que le commerce dans ces directions-là ne passe plus par chez eux et est en train de les abandonner. C'est quelque chose qui est perceptible. Quand les flux commerciaux se tarissent dans une région, la population s'inquiète, quelle que soit la période, je pense, de plus avoir ces flux qui leur permettaient soit de commercer directement, soit de profiter par contre de passage des marchands, des convois, etc. Donc, il faut croiser la réalité des transports et les questions d'ordre politique à ce qu'il faut être. Et il y a parfois des tensions entre les deux.
Peut-être une autre question, et on a donc une bibliothécaire à entendre, la distribution des ressources sociaux. Plus d'autres questions.
Je suis la question là,
est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails pratiques sur, par exemple, la durée des trajets avec ce type de boulet on a vu qu'un boulet pouvait porter entre 170 et 190 kilos sur son dos, mais combien de combien de mulets y avait-il dans une caravane? Et très longtemps, un mulet avait été très long et pouvait être exporté pendant de très nombreuses années.
Alors, sur les bêtes d'alignage, je ne sais pas, je ne peux pas avoir beaucoup d'éléments. Sur les vitesses de circulation, on va en avoir.